que la liberté est ce qui caractérise l'acte humain finalisé. Un tel acte, en effet, transcende tout notre conditionnement. Alors, caractérise l'acte humain finalisé. Le fondement de la liberté. Prenez, faisons attention, étant donné que nous avons vu qu'il y a l'acte libre au niveau moral, l'acte libre au niveau artistique. Donc, il y a deux modalités de l'acte libre. Alors, dire que l'acte libre caractérise l'acte humain finalisé, je serais d'accord pour l'acte moral, pour la liberté morale, mais pas pour la liberté artistique. La liberté artistique, elle se fonde sur l'inspiration. L'inspiration est ordonnée à une œuvre. Alors évidemment, l'œuvre, on pourrait dire que ça finalise la réalisation, mais c'est une finalisation, une finalité très particulière. Donc je crois qu'il faut quand même distinguer les deux modalités de la liberté, comme il y a deux fondements. La liberté est une relation en soi. Qu'est-ce que c'est ? Être libre. Petite dissertation à faire, comme ça, m'éviterait de faire le cours. Écrivez être libre, qu'est-ce que ça veut dire ? Être libre s'oppose, évidemment, tout de suite, à n'être pas libre, c'est-à-dire être esclave. Être esclave, c'est être dépendant. Être libre, c'est d'avoir une autonomie suffisante pour pouvoir orienter son action de telle ou telle manière, en conformité avec la fin qu'on poursuit. C'est, je crois, ça. Donc, c'est une certaine relation, la liberté. C'est pour ça que il faut regarder le fondement pour voir la spécification de cet acte libre. La liberté, ce n'est pas l'acte. C'est un acte qui est libre. C'est-à-dire un acte volontaire qui a telle qualité qu'il peut être ordonné ou ne pas être ordonné vers la fin. Qui peut être ordonné de telle ou telle manière vers la fin que nous poursuivons. Alors, nous poursuivons cette fin. Et en poursuivant cette fin, nous voyons que tel ou tel acte est conforme ou pas conforme à cette fin. Donc, c'est cette relation de conformité ou de non-conformité à la fin qui va être le point de vue de cet acte. Conformité ou non-conformité avec la fin donne la bonté de l'acte, et il est libre en fonction que je puis le poser ou ne pas le poser, en fonction que je suis capable de choisir tel ou tel moyen. Oui. Oui, c'est ça, je dirais plutôt ça. Je dirais qu'un acte finalisé nous rend libre. C'est plutôt le fondement, vous voyez. Grâce à un acte finalisé, je suis libre. Mais ce n'est pas l'acte finalisé qui est libre. Oui, il rend l'acte libre. Comme l'inspiration me rend libre. L'inspiration rend l'artiste libre. Parce que par l'inspiration, il s'élève suffisamment haut pour voir les diverses modes qu'ils pourront réaliser l'œuvre qu'ils cherchent. S'il n'est pas inspiré, il ne voit pas. Alors à ce moment-là, il marche à tâtons. C'est le hasard. Ah, tiens, ose procéder, oui, se remettre, ça doit être bon. Très bien. Tandis qu'au contraire, s'il est inspiré, il y a l'orientation dans sa vie. Donc, lui, ça le rend libre. Plus l'artiste est inspiré, plus il est libre. On a toujours vu ça chez les grands artistes. Chez les petits, ils ne sont pas du tout libres. Ils sont conditionnés en fonction du public. Ah, si je fais ça, un tel dira ça. Très bien. C'est secondaire, c'est pas ça. Donc les petits artistes ne sont pas libres, ils sont conditionnés. Tandis que le grand artiste, lui, qui peut s'élever assez haut dans l'ordre de l'inspiration, est au-delà de tout conditionnement, et par le fait même, il acquiert une liberté toujours plus grande. De sorte qu'il y a deux fondements de l'acte libre, c'est je crois ça qui est très important à comprendre, deux fondements de l'acte libre, le point de vue de l'acte finalisé et le point de vue de l'inspiration. Donc d'un côté c'est l'amour et de l'autre côté c'est l'intelligence. Et c'est pour ça que si on cherche ce que c'est que la liberté, vous voyez la difficulté. On va se poser la question, c'est intéressant parce que c'est au fond, c'est jamais posé comme ça. Il faut quand même le poser en fonction d'une philosophie réaliste et d'une éthique. Et d'une philosophie. Vous n'avez pas parlé de liberté au niveau métaphysique. Est-ce qu'il y a de la liberté au niveau métaphysique? Être ou pas être, ça dépend de vous. Au niveau de la liberté, ce serait ça au niveau métaphysique. Être ou pas être, vous voyez? Cette question qui devient chez la limite la question principale de la métaphysique et qui chez Heidegger devient la question principale, qu'est-ce que c'est? C'est une transposition de l'esprit éthique au niveau métaphysique. Au niveau métaphysique, les actes les possibles et les nécessaires. Au niveau théologique, au niveau théologique et théologie naturelle, alors on peut parler de liberté de Dieu. Il n'y a que la liberté de Dieu qui peut regarder l'être. Moi, quand je regarde l'être, je ne suis pas libre. Je le connais ou je ne le connais pas. Je ne suis pas libre. Il est, à mesure de parler, il est, et il est nécessairement lié. Donc là, autrement, je n'ai pas de liberté.
Être dans les guerres, ce serait une confusion entre l'être et l'amour.
Oui, c'est l'amour qui remplace l'être. La rassemblance de la question, est-ce que l'être ou pas être? Comme c'était la question principale au point de vue métaphysique. Non. La métaphysique reçoit l'être. Elle ne le domine pas. Pour dire qu'il est, il n'est pas pour le dominer. Il y a un Dieu, peut-être une puissance de Dieu qui fait ça. Alors, la liberté existe au niveau éthique, au niveau factuel, au niveau politique. Trois modalités de liberté. Et une quatrième modalité, liberté religieuse. Nous avons ces quatre, et là, au plan purement philosophique. Oui. Dieu n'est pas libre par rapport à son être. Dieu n'est pas libre par rapport à son être. Dieu est libre par rapport à la création. Il peut créer ou pas créer. Donc que l'être créé soit ou ne soit pas, c'est la grande question que Dieu a posée à lui-même. N'est-ce pas ? Faut-il qu'il y ait des créatures, ne faut-il qu'il n'y ait pas de créatures? C'est la grande question. Mais ça, c'est donc en théologie naturelle. Donc vous avez, je situe, parce que c'est quand même important, si on faisait une dissertation sur la liberté, alors on dirait l'acte libre au niveau moral. Éthique. Deuxièmement, l'acte libre au niveau du facere. Pas nier au niveau du facere, la réalisation artistique.
l'expression artistique.
L'artiste est libre.
Pour lui, capital d'être libre. Un artiste que vous emprisonnez dans un noviciat.
Ça ne va plus du tout.
Il ne peut plus respirer. Parce que il faut la réalisation artiste. Dans la réalisation artistique, l'artiste est libre. Troisièmement, l'acte libre au niveau politique. Quatrièmement, l'acte libre au niveau religieux, de l'homme religieux. Cinquièmement, l'acte libre en Dieu. Voilà. Cinq modalités. Et à partir de ces cinq modalités, vous pourriez chercher la ratio libertatis. Ça, vous pouvez le chercher. Alors, l'acte libre au niveau moral. Au niveau moral, vous voyez, nous avons vu au niveau moral, liberté d'exercice, liberté de choix. L'acte libre au niveau moral du choix, je peux choisir. Le vendredi, je fais pénitence. Un acte libre au niveau du choix. Ou l'acte libre au niveau de l'exercice. Le vendredi, je veux faire pénitence, alors je veux me lever à l'heure. Liberté d'exercice. Me lever ou pas me lever. C'est liberté d'exercice, c'est liberté de choix. Deux modalités. Ces deux modalités reposent sur l'amour. Un amour finalisé. Pas suffisant à l'amour tout court. Un amour finalisé qui, comme on dit, fond tout acte moral, tout acte libre moral, tout acte libre volontaire. La liberté avant la vertu. Tu vois, la prudence comme l'intelligence. Oui, alors comme l'acte prudent, je dirais. Vous voyez, comme l'acte prudent, c'est un acte prudent, un acte rectifié. Liberté de choix.
Et c'est à l'intérieur de l'amour.
Il y a toujours l'intelligence. Il ne peut pas y avoir de liberté sans qu'il y ait intelligence. Tout le temps. Puisque c'est une relation. J'établis entre la fin et le moyen. Oui, toujours. Donc, il ne peut pas y avoir de liberté sans un rapport, sans une relation. Et cette relation, c'est l'intelligence qui la découvre. Et cette relation, elle naît à l'intérieur de l'amour. Et à l'intérieur de l'amour finalisé. La liberté de l'artiste, donc, elle repose sur l'inspiration. L'inspiration me met au-delà de tous les moyens possibles. Donc, l'idéa. À partir de l'idéa. L'idéa qui naît à partir de l'inspiration. J'ai une idée, un projet. Alors, je peux le réaliser de diverses manières. Alors, ça joue au niveau de la matière, ça joue au niveau des outils, ça joue au niveau des méthodes. Donc, diverses modalités, diverses libertés. Et chaque fois, la liberté n'est pas la même. Ce n'est pas la même liberté de choisir telle ou telle matière, choisir tel ou tel outil, choisir telle ou telle méthode. C'est des modèles différents. Donc, l'idéa au niveau de l'inspiration et des réalisations particulières. Dans l'inspiration, il y a aussi le fait, hein, je domine, je ne suis pas. L'idéa commande la réalisation, commande l'œuvre. Et l'œuvre s'impose comme nécessaire. quand j'ai une idée à quelque chose à réalisation, ça s'impose comme quelque chose de nécessaire. Et tant que ce n'est pas réalisé, je suis inquiet. Quelque chose qui ne marche pas. Donc. Demande une réalisation. Mais pour cette réalisation, il y a des grands moyens libres. Donc, une liberté de choix à l'égard des moyens, une liberté d'exercice aussi à l'égard des moyens. Au niveau politique, c'est là où on parlera de liberté d'expression. Vous savez que la liberté d'expression, ce n'est pas au niveau éthique, au niveau personnel. L'éthique personnelle, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on parlera de la liberté d'expression. C'est à un niveau intérieur. Tandis qu'au niveau politique, c'est vraiment la liberté d'expression. Puis-je m'exprimer de telle ou telle manière, librement, dans tel journal ? Liberté d'expression. Puis-je liberté d'expression, de réunion, de ainsi de suite. La liberté politique, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est plus extérieur, c'est au niveau du conditionnement humain. Au niveau du conditionnement humain, il y a une certaine liberté d'expression. Alors, au niveau religieux, c'est ça que nous allons regarder maintenant, puis nous regarderons après en Dieu. Au niveau religieux, qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse ? Quand je découvre l'existence d'un être premier qui est le Créateur, et que je vois que je suis totalement dépendant de cet être créateur, je ne suis pas libre d'accepter ou de ne pas accepter cette dépendance. Cette dépendance s'impose à moi. Philosophiquement parlant, je ne peux pas dire « Ah, je peux me considérer comme étant non créé. » Je suis obligé de regarder que je suis créé. Je suis dans cet état de celui qui... Je reconnais ça. Je peux très bien dire « Je ne veux pas le regarder. » Ça, c'est autre chose. Hein, pour telle ou telle raison. Ça me conduira trop loin si je regardais ça. Mais je suis obligé de me considérer, de constater que je suis une créature. Donc, il y en a un laissé participer. Je dépends radicalement et totalement de l'être premier. Si je dépends totalement et radicalement de l'être premier, je suis dans cet état de dépendance. Mais je peux répondre à cette dépendance dans un amour fondamental qui est l'adoration. Alors, je peux poser ou ne pas poser cet acte d'adoration. Première liberté, l'adoration pour être vraie demande d'être libre. Il n'y a pas d'adoration vraie sans être libre. Celui qui dit « je suis obligé d'adorer parce qu'autrement j'aurai une amende ». Vous voyez ? Je suis obligé d'adorer à telle heure dans la somme. Parce qu'à ce moment-là, si je ne le fais pas, alors, je suis susceptible d'une amende. Ce n'est pas un acte d'adoration. La libération demande la liberté. Donc, cette liberté intérieure qui touche cet acte, l'exercice de cet acte. Suis-je libre pour, au point de vue de la spécification de l'acte ? Non. L'acte s'impose, l'acte d'adoration s'impose. Puisque je suis la dépendance à l'égard du Créateur est quelque chose qui s'impose à moi, quelque chose que je découvre mais que je ne peux pas modifier. Oui.
Le refus de cet acte d'adoration, c'est un refus d'orgueil.
Oui, tout à fait. Ça ne peut être que le refus d'orgueil. Je crois. Parce que c'est un besoin d'autonomie absolue. Du moins, c'est un prétexte d'autonomie absolue. Je crois que c'est toujours l'orgueil. Bon. Alors, je suis libre de poser cet acte ou de ne pas le poser, c'est sûr, mais cet acte s'impose à moi de telle manière. Alors, je serai libre dans les modes particuliers, la modalité. Je peux adorer debout. Je peux adorer à genoux.
Alors là, l'expression corporelle. Hein, voyez, vous retrouvez l'expression. L'expression corporelle, puisqu'on adore avec le corps. On n'adore pas seulement avec l'âme. L'adoration prend tout l'être en dépendance de Dieu. Donc, il y a une liberté d'exercice, une liberté d'expression. Donc, liberté d'exercice, liberté d'expression. Et dans la liberté d'expression, il y a un choix. Elle se fonde sur la dépendance radicale de la créature et de la créature. Elle repose sur la connaissance de cette dépendance et l'amour dans cette dépendance. Parce que si je refuse cette dépendance, je ne peux pas l'aimer. Il faut que j'aime. Il faut aimer cette dépendance comme n'étant pas quelque chose qui m'aliène, mais au contraire quelque chose qui me libère. Et considérer que l'acceptation de cette dépendance dans l'amour est une libération. Donc l'adoration est une libération. C'est là où je vois le point de vue de la liberté. Donc il y a amour et connaissance. Et je découvre que tout mon être est libre. C'est l'acte d'adoration et la liberté d'adoration, c'est la liberté la plus profonde. Elle est plus profonde que la liberté de l'acte moral, elle est plus profonde que la liberté de l'acte patchéré, plus que de l'acte politique. C'est la liberté fondamentale. Vous voyez, c'est là où presque je pourrais dire, c'est là où je découvre la source de la liberté. C'est la liberté la plus fondamentale. La plus fondamentale et ultime. Donc, l'alpha et l'oméga de l'acte libre se déploient dans l'adoration libre. Exercice et modalité. Les deux libertés d'exercice et de choix se trouvent réunies simultanément. Donc c'est la liberté fondamentale. La liberté ultime. D'une certaine manière, une fois que je découvre, de fait, je la découvre après, mais une fois que je la découvre comme la liberté qui définit l'homme religieux. S'il n'y a pas cette liberté, l'homme n'est pas complet, n'est pas parfait, n'est pas parfaitement lui-même. Il est parfaitement lui-même dans cette liberté religieuse. Cela, il découvre sa fin, il découvre sa source. C'est ça qui est le fondement dans le Vatican II sur la liberté religieuse. C'est ça qui est très important. Et c'est là où il faut voir pour pouvoir répondre à ceux qui ont attaqué ce passage. Ils sont nombreux. C'est bien que pour beaucoup des personnes comme Mgr Lefebvre, je crois, c'est ce qui a été pour lui l'obstacle le plus grand à accepter le concile, c'est qu'on n'ait plus parlé d'une liberté religieuse. L'Église ne devait pas parler de liberté religieuse parce qu'au fond, on n'est pas libre. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Vous voyez ? Et il manquait une philosophie de l'acte religieux pour montrer que l'acte religieux ne peut être parfaitement lui-même que s'il est libre. C'est là où vous touchez la liberté la plus personnelle qu'il soit et la plus profonde qu'il soit. Donc l'Église doit, puisqu'elle défend la personne, doit défendre cette liberté. De toute manière, même si une conscience est erronée. Parce que vous pourriez dire, par exemple, bon, le protestantisme est faux, le judaïsme est plus vrai, la seule religion, l'islam, c'est faux. La seule religion vraie, c'est le catholicisme. Donc, en dehors de l'adoration faite à l'intérieur du catholicisme, je suis en face d'une fausse adoration. Je suis en face d'une fausse liberté religieuse. C'est pas la condition.
droit à l'erreur, a-t-on le droit à l'erreur? Ça ne signifie pas grand-chose de se poser la question, est-ce qu'on a un droit à l'erreur? Je sais qu'il y a une dissertation à Fribourg d'un étudiant, et une consultation qui ne faisait pas ça pour moi. Il faisait ça pour un autre professeur, que je ne nomme pas. Mais je faisais cette dissertation pour ce professeur, le droit à l'erreur. On peut parler d'un droit à l'erreur, au sens absolu. Est-ce que j'ai le droit de tomber dans le fossé? Est-ce que j'ai le droit de dégrader dans la vie? Je dirais, je peux tomber dans le fossé. Je peux tomber dans la vie. Mais la possibilité n'est pas un droit. La possibilité, ça montre le manque de détermination. Alors, ils ont compris la liberté religieuse comme un droit à l'erreur. Pas ça du tout. La liberté religieuse, c'est tout simplement comprendre qu'il s'agit là d'un aspect le plus fondamental de l'homme. Il s'agit de son orientation religieuse. L'aspect le plus fondamental. Et je dois la respecter une conscience erronée. Et c'est ça.
Si philosophiquement on peut montrer que certaines révélations qu'on prétend divines sont des erreurs, est-ce que ça ne met pas sérieusement en cause leur origine?
Ah, oui, ça met en cause leur origine, ça, mais celui qui y croit. Plus montrer que l'islam c'est faux. Et je n'ai pas à partir de ce moment-là, c'est que tous ceux qui croient en l'islam, qui croient dans le Coran, vont dire. Il y aura une conscience qui demeurera fixée là-dessus. Ce qu'on appelle, vous voyez, la conscience morale erronée. Et vous devez suivre la conscience erronée. C'est le pire.
Vous devez la suivre. Être fidèle à votre conscience, même s'il est erroné. Pas pour vous, mais s'il y a un autre à côté, dit qu'elle est erronée.
Et donc, il ne vous apporte pas les raisons suffisantes pour qu'il change. Et c'est ça que l'Église maintient, la liberté. Faisons attention, ne supprimez pas ce qu'il y a de plus fondamental dans le cœur de l'homme, cette liberté religieuse.
Oui. Le conditionnement affectif est souvent beaucoup trop grand pour qu'on puisse corriger uniquement par l'intelligence.
Oui. Parce que... Surtout pour les traditions religieuses. C'est une tradition.
L'idée qui se fait comprendre, c'est
Est-ce que le fondement de
l'islam,
qui avait une nouvelle dimension. Et cette dimension, c'était la découverte de l'être premier de Dieu comme créateur. Je n'ai pas mis en connexion les deux. Mais il peut se faire, mais il n'y a pas un lien de nécessité, vous voyez. C'est comme dans les activités morales. Ben oui, il y a des rencontres qui le père de haut aimait dire un coup de bâton de néo-chine pour convertir un français. Arriver, ça. Dieu peut se servir de tout, absolument de tout. Et donc Dieu peut se servir d'une amitié pour nous conduire à la découverte de Dieu. Ça, c'est sûr. Et ça arrive assez souvent. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce que vous avez découvert un véritable ami que vous allez devenir un être religieux. Pas nécessaire.
Est-ce que l'amitié n'est pas pour vous aussi sine qua non pour aboutir à une attitude religieuse de dépendance?
Pas dire ça. Pas une condition sine qua non.
Parce que c'est pas le moyen plus radical.
C'est pas une condition sine qua non.
Au moins l'amitié avec sa mère,
l'amour premier de l'enfant de vie de sa mère. Ceci éveille en lui un sens moral. Vous voyez ? Et ce sens moral va l'aider. Mais il se fait, tous vu ça, certains êtres découvraient l'existence de Dieu ayant perdu tout sens moral. C'est Dieu qui agit directement. Et Dieu peut le faire. C'est pour ça que je ne peux pas dire condition sine qua non. Vous voyez, là, nous tombons dans des choses très complexes où il n'y a pas de lien nécessaire. Le philosophe ne peut parler que de lien nécessaire. Il essaie de découvrir ce que représente l'éthique humaine, l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne, mais il voit qu'il y a trois niveaux différents d'éthique. Et que ces trois niveaux différents d'éthique ont des fondements différents et qu'il n'y a pas de lien, de nécessité de lien par rapport à l'autre. Si ce n'est, alors comprenons, si je commence par l'éthique chrétienne, elle implique l'éthique religieuse, elle implique l'éthique morale. Oui, de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Oui, du côté de la descente, oui. Du côté de la descente, oui. Du côté de la montée, non. Je monte. Éthique humaine. Éthique religieuse. Éthique chrétienne. Donc, et H, et R, et C. Alors, et H, A, et R. Il n'y a pas de lien de nécessité. De IR à EC, il n'y a pas de lien de nécessité. Tandis qu'au contraire, si je me situe tout de suite du côté de EC, EC implique ER et implique EH. Voilà. Autrement, dans la montée, il n'y a pas de nécessité. Alors vous pouvez me dire, à faire un individu, il a découvert Dieu grâce à son amour. Tout à fait d'accord, des quantités de personnes ont découvert Dieu grâce à l'amitié. Il n'y a pas de nécessité. C'est ça que je veux dire.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'amour, au moins un embryon d'amour, est nécessaire pour que l'esprit s'ouvre à une transcendance
et qu'il puisse s'ouvre. Normalement, c'est ce qui se passe.
Il y a des exceptions dans de la grâce. Dans le chrétien, on peut dire que c'est une exception.
Oui, mais attention. Ce que nous essayons de situer, c'est la structure de l'éthique humaine, de l'éthique religieuse et de l'éthique morale. Et nous voyons qu'il y a des fondements différents et que nous voyons qu'il n'y a pas de lien de nécessité. Mais il est évident que l'être humain est unique et que normalement l'amour humain est en éclosion première avant l'amour religieux. Je pourrais dire aussi, vous voyez, je pourrais dire aussi que l'amour religieux est plus fondamental que tout amour humain. Et que le refoulement à l'égard de l'amour religieux est plus terrible que tout autre refoulement. C'est très curieux de voir des enfants. Des enfants ont quelquefois un sens plus aigu de Dieu. Beaucoup plus élu que de l'amitié. Ah, vous ne pousserez pas beaucoup, c'est sûr, mais ils ont ce sens-là. C'est très connu. C'est pour ça que vous voyez, je crois qu'il faut, bien distinguer les deux problèmes différents. Il ne faut pas les mêler. Il faut distinguer ce que nous faisons ici, tout simplement, un effort philosophique de structurer l'éthique humaine. Un effort philosophique de structurer l'éthique religieuse et puis l'éthique chrétienne. C'est ce que nous faisons. Alors ensuite, on peut se poser la question des liens qui existent entre les deux. Alors ce que je peux dire, c'est que l'éthique chrétienne assume les deux autres, elle les implique. Je ne peux pas parler d'éthique chrétienne sans une éthique religieuse, sans une éthique humaine. Impossible. Donc, elle les implique. Mais l'éthique humaine et l'éthique religieuse, il n'y a pas de lien de nécessité. Il y a une nouvelle découverte. Voilà, c'est ça simplement que je veux dire. Mais c'est sûr que tout amour conduit vers Dieu.
n'allez pas dire que ayez un ami merveilleux, vivez d'une amitié merveilleuse et nécessairement vous découvrirez. Vous voyez, c'est un autre savant que je dis ça après, pour donner la caractéristique. Vous voyez, pour montrer qu'il n'y a pas de lien de nécessité. Donc, au plan philosophique, je maintiens les trois niveaux, parce que les trois niveaux existent et se structurent différemment, tout simplement. C'est dans l'ancienne alliance toute sa vie, il ne va jamais découvrir le Christ. Même si on sait les mots. Bon, alors, liberté, c'est dans l'adoration. Alors, on pourrait parler encore de la liberté religieuse au niveau de la contemplation. Étant donné que dans l'éthique religieuse, nous l'avons vu, tout s'achève dans la contemplation. Et la contemplation donne une nouvelle liberté. Parce que par la contemplation, je peux juger de toute chose le jugement de sagesse. Le jugement de sagesse se situe là. Une fois que j'ai découvert l'existence de Dieu et que je suis dépendant de Dieu et que j'essaie de le contempler et qu'il y a un certain amour entre Dieu et moi-même, il y a un jugement de sagesse qui s'établit. Et ce jugement de sagesse va me donner une certaine liberté pour apprécier. Vous voyez, ce que je crois très important, c'est de comprendre que si l'Église, au Concile, a tellement insisté sur la liberté religieuse, c'était parce que l'Église voulait montrer que l'Église a le souci de respecter l'homme, la personne humaine, dans tout ce qu'elle est. Et donc, respecter l'homme dans tout ce qu'il est, c'est respecter nécessairement sa liberté religieuse. Et ceci, je crois, très important. Même si ça a de fait secoué certains, je comprends très bien. Certains ont été très secoués par ça, et c'est des objections que vous trouverez, parce que ça continue. Hein. Les oppositions, ça m'étonnerait que ça disparaisse d'un seul coup. Mais ces oppositions, c'est important de dire, mais existe-t-il une liberté religieuse au plan philosophique? Oui.
Est-ce contre la liberté religieuse que d'emmener quelqu'un vers un acte d'abandon au niveau religieux?
C'est au niveau religieux. Dans quel sens? Dites-moi. À la manière de Pascal, prie, adore. Si Dieu existe, c'est très bien. Si Dieu n'existe pas, ça n'a pas d'importance. Hein? C'est ça que vous voulez dire. Semblable à ça. Alors l'abandon. Tu peux toujours aller à la messe. Si c'est vrai, ça ne peut faire que du bien. Si c'est pas vrai, non, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, moi je vous ai. C'est bien, c'était ce qu'avait fait le père de Ratisbonne en disant à propos de la médaille miraculeuse. En disant, tu as un esprit fort, tu n'en as pas besoin. Alors, pourquoi tu n'acceptes pas? Accepte de prendre cette médaille. Je connais à Paris une personne qui a distribué à tous les gardes de police de Paris la médaille religieuse, la médaille de miraculeuse de rue du Bac. Et elle disait tout le temps, elle l'a distribuée à tous les agents de police. Et j'en dis, mais c'est la reine de elle a distribué en disant, quand elle voyait quelqu'un qui faisait des pourquoi vous la refusez? Vous dites pas vous ne croyez pas? Moi, je ne crois pas. Alors, si vous ne voyez pas, pourquoi vous la refusez? Il faut que vous êtes obligé. Et si vous êtes obligé de par raison, parce que votre position est fausse, au bout d'un certain temps, il faut pas. C'est évident. C'est là le danger. C'est là le danger de faire
un petit procédé apologétique. Là, tout dépend des liens que vous avez avec les personnes. Si vous avez des liens très profonds avec telle ou telle personne, vous pouvez très bien agir librement. Si vous n'avez pas beaucoup de liens, faites attention. Alors, il restera la fois prochaine la liberté en Dieu. C'est puisque nous avons regardé toutes les modalités. Vous voyez, c'est pas de l'éthique, ça. C'est pas de l'éthique, ça. La politique. Et la fois, c'est de regarder le point de vue de la sagesse. Puisque la politique, puisque l'éthique religieuse aboutit à la contemplation et à un jugement de sagesse, il est important de voir le parallélisme du côté de Dieu. Et ça correspondait à la question que vous avez posée. Y a-t-il un problème de liberté en métaphysique ? Je vais l'étudier. Aujourd'hui, tout est métaphysique. Hein, c'est la théorie métaphysique. Alors, les tableaux métaphysiques, les peintures métaphysiques, c'est une lumière métaphysique. Alors, il y a une liberté métaphysique. Faire une dissertation sur la liberté en métaphysique. L'ontologie profonde de l'être. L'être est libre. Ça signifie quelque chose, ça signifie. Alors, c'est important de voir ça.
Dernier point. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles,
Sainte Marie, Mère